Plusieurs lectures. La première dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, vous pouvez retenir assez facilement ces deux références de l'Ecclésiaste, c'est 9:11 et 3:11. Il n'y a que le chapitre qui différencie, c'est toujours dans les mêmes versets. Donc, Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 11. Ecclésiaste, vous avez trouvé, chapitre 9, verset 11. « J'ai encore vu, sous le soleil, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Vous êtes d'accord avec ça? Eh oui, forcément. Chapitre 3, verset 11. « Néanmoins, il est dit ceci, chapitre 3, verset 11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. » Alors d'un côté, nous lisons que tout dépend du temps et des circonstances, et d'un autre côté, on comprend que Dieu, dans sa bonté, pour ne pas dire sa sagesse infinie, peut prévoir les choses à l'avance. Alors, cet après-midi, nous allons revenir sur deux textes de la Bible où, précisément dans un de ces passages, dans un de ces textes, ce sont deux expériences, deux rencontres, si vous voulez. On va s'apercevoir qu'une situation va émerger soudainement, comme si elle n'était pas préparée à l'avance. Tandis que dans l'autre texte, vous allez voir avec moi que la situation a été préparée à l'avance. Elle vient de loin. Elle n'est pas apparue comme ça d'un coup, mais elle vient de loin, elle a été préparée. Alors, j'en viens à cela, bien évidemment, parce que c'est ce qui peut faire le lien entre les histoires que nous allons lire et ces deux versets que nous venons de partager. Beaucoup croient au hasard. Beaucoup pensent que dans la vie, il y a des rencontres heureuses, malheureuses. C'est le fruit du hasard. J'ai quand même l'impression que, sans parler de hasard, parce que le hasard... on ne sait pas trop le définir, d'ailleurs, le hasard. Je crois plutôt que c'est une convergence d'éléments, de faits, des situations qui vont converger ensemble et qui vont faire que va jaillir une certaine situation qui va être heureuse ou qui va être malheureuse. Soit ça nous tirera vers le haut, soit ça peut nous tirer vers le bas. Et ça, ce serait bien dommage. Et quand on se trouve confronté à des situations comme cela, maintenant, tout dépend de notre réaction. Soit notre réaction nous fera et nous conduira dans deux directions opposées, soit on ira vers un temps plus agréable et plus paisible, soit ce sera plutôt l'entrée dans une tempête et dans un moment compliqué et difficile. Je crois que derrière cette impression de hasard, derrière cela, il y a des plans qui peuvent être dessinés à l'avance. Il me semble que j'avais partagé cela avec vous il y a quelque temps, qui n'a pas fait des plans pour sa propre vie, qui n'a pas fait des plans pour son avenir, qui n'a pas fait des plans pour ses enfants quand il en a eu, qui n'a pas fait des plans. On a imaginé tout un tas de choses, et puis la réalité, quelquefois, nous a dépassé, a dépassé nos espérances, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ça a dépassé nos espérances, en tous les cas, ce n'était pas ce qu'on attendait. Je me dis qu'il y a des plans qui sont heureux et puis d'autres qui nous viennent, nous tombent dessus. On ne les a pas prévus, on ne les a pas imaginés, mais ils sont là devant nous. J'en prends un exemple dans l'évangile de Marc, et on va le lire ensemble. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, vous avez l'expérience d'un homme qui va être très, très lourde de conséquences. Marc, chapitre 6, tout cela parce qu'il y a eu un moment particulier. On appellera ça d'ailleurs un jour propice. Un jour propice arriva. Souvenez-vous ce que l'on a lu dans le livre de l'Ecclésiaste pendant que vous cherchiez Marc chapitre 6 verset 21. Souvenez-vous de cela. J'ai encore vu que la course n'est point aux agiles et la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. On revient sur le roi Hérode. Le roi Hérode qui va faire une fête. Une fête parce que c'est son anniversaire. Alors on imagine ce que pouvait être une fête chez un homme riche et un homme de pouvoir. Donc on a mis les petits plats dans les grands. Et il est dit ceci. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'on donna un festin, lorsque Hérode, donna à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête du prophète Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Je pense que de tous les anniversaires d'Hérode, on se souviendra certainement que de celui-là. Si vous aviez été invité, je pense que le gâteau, il ne serait plus passé après. Hein. Bon, ce n'est pas tellement appétissant, c'est plutôt macabre quand même comme circonstance. Mais peut-être qu'à l'époque, on était un peu moins humain, un peu moins sensible. La vie comptait pas grand-chose. Et pour Hérode, il est embarrassé, on comprend que dans cette situation, il se trouve très très embarrassé, mais derrière cela, et c'est ça la chose la plus importante, derrière cela, on se rend compte que le roi Hérode a été entraîné dans un plan macabre, un plan diabolique, hein. Je vois pas d'autre raison à cela qu'un plan diabolique, et on comprend que si certains événements sont préparés depuis longtemps, là manifestement, ça vient pas de loin, c'est instantané. Il s'est passé un événement, un jour propice, des circonstances, des situations qui convergent ensemble pour arriver à ce choix que cet homme doit prendre. Et forcément, à cause, parce que les deux versets certainement les plus importants, sont le premier qu'on a lu, un jour propice, et enfin le verset 26, où il est dit « À cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas faire un refus. » Donc on voit bien que cet homme a été pris au dépourvu, il a été piégé en somme, et le piège l'a amené tellement loin, il va assassiner un homme juste. Savez-vous que Hérode avait de la sympathie pour Jean-Baptiste ? Il aimait bien Jean-Baptiste. On a envie de dire, si encore c'était son ennemi juré, ben, il met un terme à cette haine, et il lui coupe la tête et c'est terminé. Mais il l'aimait bien. C'est encore plus paradoxal, hein. C'est encore plus incroyable. Il l'aimait bien. La Bible dit, dans les quelques versets qui précédaient, que Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait jeté en prison, non pas parce qu'il voulait, mais parce que sa compagne avait en horreur cet homme, Jean-Baptiste. Pour quelle raison ? Parce que cette femme était la femme de quelqu'un d'autre, et que pour obtenir les faveurs de cette femme, Hérode avait fait assassiner son mari. Et donc il l'avait récupéré, et voilà, c'était sa compagne. Et évidemment, quand Jean-Baptiste avait eu vent de l'histoire, régulièrement, il disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit d'avoir cette femme. C'est la femme de ton frère Philippe. Tu n'as pas le droit d'épouser cette femme. C'est pas normal. Tu ne peux pas faire cela. » Et cette femme était énervée. Elle était agacée. Elle était troublée par les réactions de cet homme. Et s'il pouvait se taire, il y a combien de moyens de faire taire les gens ? Il y en a un qui est radical, hein ? Vous lui coupez la tête, hein ? Il ne parlera plus. Donc elle aurait bien voulu. Sauf que Hérode ne veut pas. Alors, il a essayé de couper la poire en deux, il l'a mis en prison. Au moins, il parlera qu'aux gardiens, il n'ira pas sur les places, dans les rues, etc., pour raconter ma mauvaise conduite et ma mauvaise attitude, parce que quelque part, vous remarquerez que ce que Jean-Baptiste dit n'est pas fou. Ce que Jean-Baptiste dit n'est pas insensé. Ce que Jean-Baptiste dit, ça, c'est une vérité. C'est pas une vérité, c'est la sienne. Non, c'est la vérité, c'est la bonne moralité, c'est la conscience, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais on n'aime pas tellement entendre ce qui nous reprend au plus fort de nos attitudes, surtout quand on juge que nos attitudes ne sont pas bonnes. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. Et là, c'est comme cela qu'il l'a mis en prison, pensant que c'était limiter les dégâts. Il nous est dit que plusieurs fois, il l'écoutait, il prenait du temps, il le craignait d'ailleurs, parce qu'il considérait que c'était un homme de Dieu, et plusieurs fois, il prenait plaisir à l'entendre. Ça peut paraître incroyable. Hein. Je ne sais pas si vous aimez les gens qui vous font des reproches. Ah, vous n'aimez pas, vous ? Ben lui, ce reproche-là, il l'accepte parce qu'il sait que c'est vrai. Donc, il l'écoute avec plaisir. Certainement que leur discussion ne tournait pas qu'autour de cela. Mais avec un homme de Dieu, on peut imaginer qu'il parlera des choses de Dieu. On peut imaginer qu'il parlera du ciel. Il pouvait parler des jugements, il pouvait parler du plan de Dieu, il pouvait parler des choix de Dieu, il pouvait parler de la souveraineté de Dieu, des choses dont on parle peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des missiles nord-coréens ou alors tweets ravageurs de personnalités, d'hommes de pouvoir, etc. On ramène tout à l'homme. Tout est concentré sur l'homme aujourd'hui. De Dieu, on en parle peu. J'entendais quelqu'un qui faisait une analyse très brève. C'était une journaliste qui a étudié les religions au Japon. Vous savez qu'au Japon, c'est très curieux, j'avais entendu ça il y a fort longtemps, au Japon, on avait rencontré des personnes qui étaient très racistes, antisémites même, au sortir de la guerre, antisémites, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas un juif qui vivait au Japon. Comment vous expliquez ça, vous ? C'est bizarre quand même. Et donc, cette femme a étudié les religions. Bon, c'est le bouddhisme qui prédomine évidemment là-bas à plus de 97%. Donc, il y a très peu de place pour d'autres religions. Il y a un peu de christianisme. Et notamment, ce qui marche le plus actuellement, ce sont les évangéliques au Japon. C'est ça qui a le vent en poupe et qui marche le mieux. Mais cette femme a résumé la différence culturelle dans la tête d'un Japonais entre sa religion et la religion des missionnaires, ce qui a été importé dès les années 1600 par des missionnaires catholiques dans un premier temps. Donc, il disait, chez un Japonais, la culture est très simple à la différence et totalement à l'opposé du christianisme. Dans le christianisme, rien ne s'explique sans Dieu, y compris l'homme. Vous n'expliquez rien sans Dieu. Et dans le bouddhisme, rien ne s'explique sans l'homme, y compris l'homme. Donc on est complètement à l'opposé. Tout s'explique là-bas par l'homme. C'est l'homme qui donne l'explication. Tandis que dans le christianisme, les réponses viennent de Dieu. Elles viennent d'en haut, parce qu'il est le créateur. On a compris, on a réalisé que c'est lui qui avait tout créé. Quelle différence ! C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on parle si peu de Dieu. Et on veut mettre en avant des programmes humains. Certainement que certains sont très, très positifs. Ils vont dans un sens très humain pour aider l'humanité, pour aider à la survie de l'homme. Mais en parallèle et à côté de cela, le monde va si mal. Le monde va si mal. Hérode vivait dans un monde où on parlait peu de Dieu, ou en tous les cas, quand ses prophètes en parlaient, c'était toujours pour secouer la mauvaise conscience de ces gens-là, puisqu'elle était étouffée, sinon morte. Il essayait de réveiller cette conscience-là. Hérode avait été parmi ceux qui, bien, avaient été réveillés. Mais il va se faire piéger. Et le plan est véritablement macabre. Et ces portes de sortie sont quand même petites, mais elles existent quand même. Un jour propice, la jeune fille vient et danse, on imagine, danse orientale. Et tout le monde est fasciné par le spectacle qui est offert. Et même le roi est fasciné par ce spectacle. J'arrive pas, peut-être que c'est une vision très terre-à-terre, où peut-être à l'image de notre temps. Mais j'arrive pas à imaginer autre chose qui ait pu plaire à Hérode que la sensualité de cette jeune femme. Cette jeune femme qui danse, qui plaît à Hérode, qui plaît aux convives. Que pensaient-ils ces gens-là? Quelle belle jeune fille! Peut-être que certains se diraient « Oh, je passerai bien un moment avec elle ». C'est comme ça aujourd'hui, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout est sur le regard, tout est sur l'apparence. Alors je ne sais pas si cette jeune femme l'aura fait pour cela, mais ce que je me rends compte, c'est que cet homme va être séduit d'une certaine manière. Séduit par la beauté, séduit par la danse de cette jeune femme, séduit par le spectacle qu'elle produit. Et là, tout d'un coup, il se lâche à des promesses insensées. « Demande-moi ce que tu veux. » T'es pas obligé de faire cela. Il aurait pu, à la fin du spectacle de cette femme, l'applaudir et... Je sais pas si ça se faisait à l'époque, mais en tous les cas, aujourd'hui, on ferait cela, applaudir, et en disant à tout le monde « Quel beau spectacle, bravo, jeune fille, rentre à la maison maintenant, c'était fabuleux, on verra une autre fois. » Non, non, c'est pas ça qui est derrière. Pas ça. Dans une société qui est quand même pas mal tournée vers la sensualité, on peut pas espérer que de bons sentiments, hein. On ne peut pas espérer que des sentiments nobles. Non, non, aujourd'hui, avec toute l'électronique et tout ce qui se passe, mais il y a des gens qui connaissent des mésaventures. Hein. J'entendais, peut-être avez-vous entendu cette information, qu'un homme a porté plainte, je vous l'avais dit, je crois, un homme a porté plainte contre une société de transport. Vous regardez sur votre téléphone une application et vous commandez un véhicule pour vous emmener d'un endroit à un autre. Et l'homme, donc, travaillait avec ce système-là. Sauf qu'un jour, il a récupéré le téléphone de sa femme pour commander le fameux taxi. Et puis, il a rentré ses identifiants, etc. Mais les identifiants sont restés dans le téléphone de son épouse. Et d'un coup, l'épouse a réalisé que son mari l'a trompé. Parce que c'est pour ça qu'il prenait des véhicules non identifiables, pour pas qu'on le suive à la trace. Eh bien, vous savez quoi? Divorce précipité. Et le gars, il porte plainte contre la société pour divorce anticipé et précipité. C'est un monde de fous, hein. 45 millions, il demande. 45 millions. Je ne sais pas s'il les aura. Mais après tout, s'il avait été correct, s'il avait été droit, on n'en serait pas arrivé là, hein. Non ? Me semble. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'applications. À une époque, on adoptait des animaux. Aujourd'hui, vous pouvez adopter un mec. Je blague pas, hein. Il y a des applications comme ça, il y a de la publicité, hein. Les relations extra-conjugales, etc. Tout est banalisé, hein. Énormément banalisé. Je pense que certains ont livré, ont vendu, ont donné la moitié de leur royaume, ou peut-être leur royaume tout entier, hein, pour quelques instants de sensualité ou de séduction. Ils ont été séduits. Ce pauvre Hérode, il est tombé dans le piège, et les deux pieds dedans. Il y avait quand même des portes de sortie, parce que quand il dit à la jeune fille « Demande-moi la moitié de mon royaume et je te le donnerai », si au moins il n'avait pas prêté serment, parce qu'il en met une deuxième couche, hein, avec serment, s'il n'avait pas prêté serment, il aurait pu dire « Mais non, je blague ». Mais là, il ne peut pas dire ça, hein. Il ne peut pas le dire, parce qu'il a prêté serment, même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Cette pauvre jeune fille, elle ne sait pas quoi demander, elle n'était pas venue là pour ça. C'était pas un entretien d'embauche, c'était pas une chasse au trésor. Mais elle n'était pas venue chercher quelque chose comme ça, donc elle est un peu désemparée. Et elle va vers sa maman en disant « Maman, qu'est-ce que je demande ? C'est fou ce qui m'arrive. J'ai touché le gros lot, quoi. C'est fou ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je demande ?» Ben la pauvre, elle aura rien. C'est macabre. Tu vas demander la tête de celui dont je ne supporte pas les propos, etc. Tu demandes à ce qu'on aille faire décapiter Jean dans sa prison. La pauvre. Elle aurait pu avoir un yacht, une île, un building, tout ce que vous voulez. Elle n'aura rien. Sauf la vengeance de sa mère. La haine de sa mère. La violence de sa mère. Finalement, l'amertume de sa mère, c'est ça qu'elle aura. Rien que cela. Alors elle y retourne. Pour demander, on l'a lu ensemble, la tête de cet homme. Il avait quelques portes de sortie. Il aurait pu s'adresser à tout le monde. Il aurait pu dire à la jeune fille, « Mademoiselle, ça je te le donnerai jamais. Ça je refuse. Je t'ai promis plein de choses, mais cet homme-là, on n'y touche pas, c'est un homme de Dieu. » Il aurait pu, hein. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu? Je pense qu'il aurait pu. Sauf qu'après, il pouvait dire, « Bye bye, Hérodias. » Je pense qu'elle l'aurait quitté, certainement. Et comme il avait tout fait pour l'avoir jusqu'à être meurtrier, il n'avait peut-être pas envie de la perdre comme ça. Alors bon, s'il avait pu tuer quelqu'un de sa famille, tuer un étranger, pourquoi pas, tant que je la garde. Beaucoup de gens qui sont prêts à beaucoup de choses, pour pas grand-chose au bout du compte. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il a laissé parler ses pulsions. Hein. Évidemment, la moralité, la justice, la droiture, ça s'efface au profit d'un désir qui est limité, illégitime, on peut même dire illégitime. Et puis, ben, l'occasion a fait le larron. Hein. Ça fait un beau larron, ce pauvre homme. Et il va être piégé. Alors, pourquoi est-ce qu'il tombe ? Parce qu'il a prêté serment, parce qu'il y a beaucoup de monde, et tout le monde est là et dit « Maintenant, Hérode, tu fais quoi ?» Souvent, le quand dira-t-on, ça joue. Hein. Souvent, le quand dira-t-on, ça joue. Hein. Tu vas à l'église, tu crois en Dieu, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est pas normal. Si, si. Alors, il craint certainement pour son autorité, sa crédibilité. Vous imaginez s'il renverse le serment qu'il vient de prêter ? Ça signifie qu'il pourra le faire une autre fois, et peut-être même une autre fois. Et combien de généraux derrière lui pourront se révolter en disant « il n'est pas fiable, hein, on ne peut pas lui faire confiance ». Je pense qu'à l'époque, on ne restait pas longtemps sur le trône, hein, sans en éliminer régulièrement pas mal. Hein. Je pense que la vie, elle valait pas cher, et même pour ceux qui étaient tout en haut, ça devait être compliqué de garder son pouvoir. Il fallait avoir les yeux devant, derrière, de tous les côtés. C'était passablement compliqué. Alors lui, il a fait preuve d'autoritarisme. Il a dit « c'est moi le chef, tu demandes, tu auras ». À cause de son orgueil, finalement, de sa réputation. Il va perdre la moitié d'un royaume. Il était prêt à perdre la moitié d'un royaume vulnérable, passager, friable. Et quand on lui demande la tête de Jean-Baptiste, finalement, il va perdre la totalité d'un salut éternel. C'est effrayant, quand même, de ne pas voir plus loin que cela. Il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Même s'il est très long à la Cyrano, hein, vous voyez pas loin quand même. Hein. C'est drôlement limité. On est vraiment à courte vue. Et cet homme n'a pas vu plus loin. Plus loin, on le retrouve dans l'évangile de Luc. Quelques années sont passées. Jésus a été arrêté. Jésus est mené au tribunal. Et il nous est dit qu'après être passé devant Pilate, il va être proposé à Hérode, qui passe par là. Et Hérode va prendre plaisir, une fois de plus, à entendre parler de ce Jésus et surtout à le rencontrer. Il est dit ceci, « Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. » Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les scribes, les sacrificateurs étaient là et l'accusaient avec violence. Et Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Je me suis pendant un moment posé la question, pourquoi Jésus ne lui a rien dit ? Il y avait tant à dire sur Hérode. Hein. Je pense que la liste de toutes les fautes et toutes les erreurs, mais il y en avait une tartine, hein. Croyez pas ? Il y en avait à dire. Hein. Alors il lui pose des questions, ben, il aurait pu répondre. De là à faire quelques miracles, c'est autre chose, mais au moins, il aurait pu lui dire, hey, « Hé, Hérode, t'as pas fait une gaffe il y a quelques années, quand tu as coupé la tête de Jean-Baptiste, tu penses que c'était raisonnable ? Tu penses que c'était une bonne chose ? Est-ce que c'était pas une erreur de faire cela ? T'as pas eu l'impression de tomber dans un piège ?» Il aurait pu le ramener à cette histoire. Pas un mot. Pas un mot. Certains s'étonnent que Dieu ne leur parle pas. Est-ce que Dieu leur a trop parlé ? Est-ce que Dieu n'a pas trop dit ? Et est-ce qu'ils n'ont pas fermé la porte de leur cœur et la porte du ciel comme une égoutille, hein ? Fermé la porte du ciel en disant « je ne veux rien entendre ». Ne vous étonnez pas que Dieu ne vous parle plus. Hein ? C'est logique, c'est logique. Qu'est-ce que Jésus pouvait dire à cet homme quand cet homme avait décidé de couper la tête de l'homme de Dieu, de ne plus rien entendre de Dieu ? Ce n'est pas maintenant qu'il fallait y penser avant. Alors certainement qu'il vient de perdre beaucoup de choses, son royaume, son rang, son pouvoir, sa prestance, son orgueil, sa vanité. C'est tout cela qui l'ont tué. Et même, il finit mal parce qu'il considère Jésus avec mépris. On aurait pu s'interroger en disant « Pourquoi il ne me parle pas ?» On l'accuse de toutes parts, il ne dit rien. D'ailleurs, même Pilate, qui cherchera à le défendre, va lui dire « Mais tu ne réponds rien, mais dis quelque chose !» Et à ce Pilate, il va dire quelque chose. Il va parler. Même si cet homme tournera les talons en disant « la vérité, qu'est-ce que la vérité ?» Toujours est-il qu'il en entendra, mais Hérode en avait entendu. Vous avez une opportunité extraordinaire aujourd'hui, c'est d'entendre le conseil divin. Demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, vous l'avez. Là, vous l'avez. Donc, il ne faut pas passer à côté de cela. Ça, c'est un... Ça fait partie, me semble-t-il, de ces circonstances qui sont soudaines. On n'attend pas la chose et d'un coup, il se passe quelque chose. Et Hérode n'a pas réagi comme il aurait dû faire. Il s'est laissé piéger par lui-même, par son propre orgueil. Maintenant, j'en viens à une autre histoire qui est beaucoup plus belle, celle-là. C'est l'histoire de cette femme que Jésus rencontrera alors qu'il fait route par quelques chemins en Palestine. Il va passer par la Samarie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et je vais lire pour vous ce texte, il est dit ceci à partir du verset 4. Et le verset, me semble-t-il, le plus important, c'est précisément le verset 4 et le début de ce verset 4. Il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Et l'histoire continue, ils vont avoir une discussion ensemble, et puis on va un peu plus loin. Il nous est dit au verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et ils sortirent de la ville et vinrent à sa rencontre. Verset 39, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Si pour Hérode, il me semble que c'est le plan du diable qui a été tissé dans l'ombre comme cela et qui soudainement a explosé à la figure de cet homme, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et le plan de Dieu peut venir de loin, peut vraiment venir de loin. Je remets les choses dans le contexte. Jésus va avoir un face-à-face avec cette femme. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas facile à obtenir, un face-à-face avec cette femme, pour plusieurs raisons. Première raison, il nous est dit que Jésus a décidé de quitter la Judée pour remonter dans le nord en Galilée. Sauf que, au milieu, pris en sandwich, vous avez cette région de la Samarie, une région révolutionnaire, où il y a beaucoup d'agitation, et où on n'aime pas les Juifs. C'est un peuple à part, c'est un peuple qui a été ramené dans des exodes précédents, et dans des déportations précédentes, et il s'est installé là. Les Samaritains, les Philistins, les Palestiniens d'aujourd'hui, si vous voulez, ils sont là. Et ils ont leurs croyances, ils ont leurs pratiques. N'est rien à voir avec ce foyer national juif, hein, rien à voir. Donc on va se disputer, on ne s'aime pas, on va se faire la guerre. Et en général, quand les Juifs devaient aller du nord au sud ou du sud au nord, on évitait vraiment de passer par ces routes centrales de la Samarie. On faisait plutôt un détour. Quitte à passer d'ailleurs par la Cisjordanie, la Décapole, on allait carrément de l'autre côté, mais on évitait de passer par la Samarie. Et là, je lis, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Une autre fois, Jésus est passé par la Samarie. Il a envoyé 2 de ses disciples dans un village pour obtenir une chambre pour dormir, un lieu d'habitation. Et il nous est dit qu'aucun dans le village ne l'ont reçu. Personne n'a voulu le recevoir parce qu'on savait qu'il se dirigeait vers Jérusalem et que c'était des Juifs. On n'en voulait pas. Ça a mis en colère deux des disciples qui ont demandé que Dieu fasse un miracle et qu'il envoie le feu du ciel et qu'il grille tout le monde sur place. C'est assez radical. Hein? Mais on ne s'aimait pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et là, Jésus dit, allez, on monte, on file au nord. Alors, on va s'apprêter à prendre d'autres routes, on a programmé le GPS, et Jésus dit, non, on va passer par la Samarie. Mais on ne passe pas par la Samarie. Ce n'est pas par là qu'il faut passer. Si, il faut passer par la Samarie. Pourquoi fallait-il passer par la Samarie? Pour rencontrer la Samaritaine? Ça semble, pour nous qui avons toute l'histoire, ça semble logique. Il fallait passer par là. Donc, ils y vont. Et Jésus a décidé de s'arrêter dans une ville de Samarie, précisément à Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Là, il y a un puits. Et il est fatigué. S'il n'était pas fatigué, s'ils n'étaient pas tous fatigués, ce serait peut-être arrêté au village d'après. Mais non, c'est ce village. Certains diront hasard des rencontres. Pur hasard. Ou alors, drôle de coïncidence, tout de même. Il nous est dit que Jésus envoie les disciples à la ville. Il dit, allez faire un tour, allez chercher à manger. Laissez-moi seul. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pour être seul avec cette femme? Pour discuter seul avec cette femme? Parce que s'il avait été avec les disciples, ça n'aurait pas été possible. J'invente rien dans le texte. Il nous est dit que quand les disciples sont revenus, ils étaient tout étonnés. En disant, il a parlé avec cette femme. Vous imaginez s'ils avaient été là? La discussion aurait été impossible. Mais alors, ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'il est à quelque chose près midi. Enfin, on est en pleine journée. Personne vient puiser de l'eau à cette heure-là. Personne. Sauf cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle vient à cette heure-là? Beaucoup pourraient... On pourrait en faire un roman. On pourrait en faire toute une histoire. Mais si elle vient là, au moins elle est sûre d'être tranquille. Il n'y aura personne. Elle est sûre d'être tranquille. Vous savez, il y a des gens qui aiment être seuls. Ce n'est pas parce qu'ils sont juste solitaires, c'est parce qu'ils n'aiment pas les autres. Donc ils préfèrent être seuls. Il y a des gens comme ça, hein, préfèrent être seuls. Au moins, alors, on trouve toujours une parade. Oui, il a besoin de se reposer, il aime sa tranquillité, etc. Mais ce n'est pas vrai, ils n'aiment pas les gens. Cette femme... Je ne sais pas le ressenti qu'elle a, même avec ceux du village, mais quand elle va commencer à raconter sa vie, on a l'impression que, elle aime être seule. Elle aime être seule. Sa vie n'a pas été une réussite. Quelquefois, d'ailleurs, quand on prend des coups, on finit par moins aimer les gens. Quand on prend des coups, on finit par se replier sur soi, on finit par s'enfermer, on finit par ne regarder qu'à soi et à se protéger, en somme. Je ne sais pas dans quel état d'esprit était cette femme, mais la réalité, c'est que quand Jésus va lui adresser la parole, parce qu'elle vient puiser de l'eau, Jésus lui dit, tu ne voudrais pas me donner à boire, s'il te plaît? Et là, ce n'est pas oui ou non qu'elle répond. Ni l'un ni l'autre. Hein? Elle dit, pourquoi tu me parles? La discussion va être dure quand même. Hein? Pourquoi tu me parles? On n'a pas de relation. Je suis une femme déjà, tu es un homme, tu es juive, je suis samaritaine, tu ne devrais pas me parler, tu devrais me laisser puiser de l'eau et rentrer chez moi. Pourquoi est-ce que tu me parles? C'est un face-à-face entre une âme perdue et un sauveur. C'est un face-à-face entre un berger et une brebis égarée, dans le fond. C'est ni plus ni moins que cela. C'est un face-à-face entre quelqu'un qui vit un drame et une autre personne qui a la solution à ce drame. Est capable de donner des réponses à toutes les questions qui taraudent et qui ont certainement blessé cette femme. Alors le berger, comme un bon berger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du temps, il a pris le temps qu'il fallait, et il s'est occupé de cette brebis égarée. Alors avec soin, avec délicatesse, avec patience, avec amour aussi, il va la ramener à la maison. Il ne va pas la porter sur ses épaules au sens propre, mais d'une manière figurée, il va la déraciner d'où elle était pour la planter ailleurs. Si vous relisez le texte, vous verrez que Jésus va prendre le temps de discuter avec cette femme et de lui dire que lui, dans le fond, avait la capacité de donner à cette femme ce qu'elle cherche depuis toujours. Manifestement, Elle a été malheureuse en amour, 5 maris. Elle vit en concubinage avec le 6e. Ça marche pas, ça colle pas, y a rien qui fonctionne. C'est pas très agréable pour elle, sa vie, et certainement pas une réussite. Mais petit à petit, il l'amène à considérer que la vie n'est pas faite que boire, manger, dormir. Voilà, il y a d'autres choses. Il y a des valeurs spirituelles derrière tout cela. Des valeurs intérieures qui sont importantes aussi. Et petit à petit, il l'amène sur le terrain non pas de la religion, mais d'une relation à renouer avec Dieu, ce que peut-être elle n'avait jamais saisi, peut-être même jamais compris, n'avait pas réalisé cela. Et petit à petit, il l'amène à comprendre cela. Et dans le fond, on s'aperçoit que Jésus, après s'être débrouillé pour être seul avec cette femme, il va apporter à cette femme toutes les solutions. Vous avez vu, on a lu qu'elle a laissé sa cruche, elle est rentrée au village en disant « J'ai trouvé quelqu'un, ça doit être le Christ. » C'est pas possible, ça doit être le Christ. Dans cette religion samaritaine, il y avait beaucoup de choses mélangées, mais cette idée du Messie était présente, elle existait. Hein. On avait récupéré, c'est un petit peu comme si on avait récupéré tout un tas de principes, d'idées, et on avait fait sa propre tambouille, sa propre religion, en disant avec tout ça, il nous manquera rien. Mais c'était tellement confus, ça venait d'un petit peu partout. C'était pas clair. Mais l'idée du Messie, c'était clair. L'idée d'une rédemption, c'était clair. L'idée d'une délivrance, c'était clair. Et dites-moi aujourd'hui, vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui vit dans le malheur et qui n'a pas envie de s'en sortir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous ceux qui sont dans la galère, tous ceux qui sont dans la peine, tous ceux qui sont dans les problèmes, tous ceux qui sont dans les difficultés, ont tous envie d'en sortir. Tous. Tous. Et ces gens-là avaient envie d'entendre parler d'un Messie, d'une délivrance, de la liberté. Alors quand ces Samaritains ont entendu le témoignage de cette femme, remarquez, elle a ciblé, hein. Elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et manifestement, ne devait pas en être très fier. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout le village est sorti. On devait la connaître, celle-là. Hein. Tout le village est sorti pour voir quel est celui qui a réussi à faire ça. Et quand on s'est présenté devant Jésus, on lui a demandé de prendre un peu plus de temps. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Parce qu'au départ, elle s'est dit, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est certainement celui que l'on attend, que l'on attendait. On voulait bien y croire, mais on n'avait pas de preuves concrètes. Et là, après avoir entendu Jésus pendant 2 jours, ils vont dire à cette femme, on croyait déjà avec ce que tu nous avais dit, mais là, on y croit encore plus. Et on est persuadé qu'il est le Sauveur. Vous vous rendez compte? Le Sauveur du monde. On vient de passer d'un état d'ignorance totale à un état de connaissance parfaite. C'est pas extraordinaire, ça? De l'ignorance totale, de la nuit la plus noire, jusqu'au jour. Là, on est en plein jour, on voit clair. Tout s'éclaire, tout devient facile à comprendre. Jésus a expliqué à cette femme et à cette foule qui était comme elle, étrangère, ignorante, coupable, condamnée à cause de leur faute. Jésus leur a expliqué qu'il était plus grand que le fameux Jacob qui avait donné ce puits sur lequel il s'était assis, sur la margelle de ce puits-là. En fait, il était au-dessus des religions, on ne parle pas de religion précisément. Et il est venu expliquer qu'il était un prophète. Cette femme dira « Mais je vois que tu es prophète !» Mais j'ai envie de dire, au-delà même d'une loi qui serait rigide, la volonté de Dieu, c'est de vous parler cœur à cœur cet après-midi, de vous parler dans un langage que vous allez comprendre. On n'a pas besoin que la messe soit dite encore en latin. Ça ne donne rien, à moins que vous ayez étudié le latin à l'école. Mais sinon, ça devient perle rare, cela. Dites, on a besoin de mots concrets. On a besoin que ce Dieu-là colle à notre vie actuelle. C'est de ça dont on a besoin. Alors aujourd'hui, beaucoup mettent en avant des lois, des préceptes, des principes, etc. C'est pas ça qui change les vies, c'est la rencontre avec Jésus qui change les vies. Et regardez, finalement, il s'est présenté au-delà et par-delà toutes les attentes comme le Sauveur. En fait, c'était le temps de Dieu, c'était le bon moment, c'était le temps de Dieu, c'était le bon endroit. Je ne crois pas au hasard. Tout dépend, pour eux, du temps et des circonstances. La course n'est pas aux agiles. Certains ont pensé qu'ils couraient tellement vite que jamais l'orage ne les rattraperait. Et puis, ils n'ont pas vu que sous leurs pieds, le sol se dérobait et ils ont été arrêtés. C'est arrivé des dizaines et centaines de fois. J'aime à penser que le hasard n'existera définitivement jamais. Mais Dieu a un plan. Soit vous tombez dans les pièges du diable qui, eux, sont menés en une fraction de seconde et vous êtes emporté dans un tourbillon de violence, de haine, et vous vous condamnez à mort pour l'éternité. Soit vous voyez le plan de Dieu, le plan de Dieu préparé bien à l'avance. Vous avez vu ? Jésus est arrivé en avance au puits, avant cette femme. Mais il savait qu'elle viendrait. Il savait qu'elle serait là. Dans 5 minutes, 1 quart d'heure, 20 minutes, 1 demi-heure, elle va venir. Il savait à quel puits il fallait l'attendre. Il savait dans quel village. Il savait quels mots seraient les plus précieux, les plus faciles à cette femme de comprendre. Il savait toutes ces choses-là. Il le savait. Tout a été préparé à l'avance. Tout a été bien mis en ordre d'une façon extraordinaire. Et il va faire tomber les barrières les unes après les autres. Et jusque dans le souci du détail, il a renvoyé les disciples en disant « Allez chercher à manger ». Et quand ils reviennent avec la nourriture, ils vont dire à Jésus « Mais mange, mange !» Mais il dit « Bon, je n'ai pas trop faim. J'ai à manger une autre nourriture. » La vraie nourriture. Ils auraient pu se dire « Mais pourquoi tu nous as envoyé chercher à manger si tu n'avais pas faim ?» Parce que je voulais être seul avec elle. Avec vous, ça aurait été impossible, vous lui auriez fait la vie. Et qu'est-ce que tu fais là, et pourquoi tu parles, et de quoi tu te mêles, etc. Laisse-nous tranquilles, on est fatigués. Jésus est délicat au possible. Il sait exactement comment vous atteindre. Alors j'arrête, et je voudrais que ce soit lui qui vous atteigne maintenant. J'aimerais que ce soit lui qui vous touche maintenant. J'aimerais que ce soit lui qui arrive à ses fins et qui vous touche comme il le faut. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques instants ? Sachez qu'à 4h05, un 12 février, c'est le temps de Dieu, c'est le bon moment et c'est le bon endroit. C'est maintenant que vous pouvez être béni, c'est maintenant que Dieu peut vous faire du bien. Alors on va prier, on va demander à Dieu sa grâce, on va lui demander sa bénédiction, on va lui demander d'agir. Seigneur, étends ta main, je t'en prie, accorde ta faveur et ta grâce. Accorde ta bénédiction à celle qui cet après-midi est venue dans ce lieu pour entendre parler de toi. Seigneur, nous croyons à ta puissance qui délivre, nous croyons à ton autorité, nous croyons à ta force toute puissante qui est capable de renverser les barrières, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient spirituelles ou autres. Tu es capable de renverser les barrières et tu es capable de trouver le chemin d'un cœur pour donner la paix, pour donner la joie. Je t'en supplie, étends ta main. Je t'en supplie, manifeste-toi. Je t'en supplie, glorifie ton nom maintenant. Ah Seigneur, étends ta main. Agis, je t'en prie, manifeste-toi. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta bénédiction. Nous voulons compter sur ton secours. Nous voulons espérer après ta bénédiction. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, agis. Nous voulons croire que tu vas te manifester maintenant. Et si quelqu'un n'a jamais entendu la voix de Jésus audiblement, n'a jamais compris la croix, n'a jamais réalisé l'œuvre du calvaire, j'aimerais prier et j'aimerais que tu touches ce cœur-là. J'aimerais te demander de descendre, d'éliminer les derniers obstacles pour que tout devienne clair dans ce cœur, dans cette âme, dans cet esprit. Fais ton œuvre, je t'en prie, Seigneur. Glorifie-toi. Nous nous attendons à toi et nous te remercions pour ce que tu feras maintenant. À toi l'honneur et la gloire pour ta bonté, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.